voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Christiane Taubira. Ce soir, le pouvoir des mots.
Christiane Taubira, parlons maintenant, si vous le voulez bien, de votre engagement. Quand il s'est agi d'adhérer à ce vieux parti socialiste guyanais, vous refusez, car vous considérez que les élus sont clientélistes et corrompus. Vous attendez 1974, alors étudiante, pour rejoindre le mouvement guyanais de décolonisation, le MOGUID. J'imagine que votre arrivée a été remarquée.
Oui, je suis attaquée assez rapidement. Ceci étant, alors, le MOGUID, donc le mouvement guyanais de décolonisation, il est créé au début des années 70. La décennie 70, c'est vraiment une décade prodigieuse pour nous. C'est vraiment une décennie, au sens large de décade, une décennie, j'allais dire, majestueuse. Il y a de grands mouvements de grève ouvrière, de beaux mouvements étudiants, de beaux mouvements, c'est-à-dire pas des revendications. Il y a des revendications matérielles parce que dans le milieu ouvrier, par exemple, en 1971, il y a une grève pour exiger un tarif horaire à 2 francs de l'heure, pour exiger 2 francs de l'heure. C'est quand même ça la réalité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des revendications sur la liberté syndicale. Il y a de très très belles revendications sur la conception du travail. Et les étudiants sont des revendications non pas simplement pour avoir plus de profs, mais pour contester, pour interroger le système, pour contester ses fondements. C'est une très belle décennie. Moi, je suis étudiante à Paris. Je rejoins, il y a des arrestations qui se font en 1974 sur la base de ce qu'on fait dans les colonies. La Guyane est département depuis 1946. Tous les Outre-mer sont soumis à l'ordonnance de 1960 qui permet au préfet de déplacer et d'envoyer en exil, on appelait ça comme ça à l'époque, donc d'envoyer en France des enseignants, des fonctionnaires en fait, quel que soit leur métier, des fonctionnaires, en leur interdisant de pratiquer dans leur territoire. Donc le grand Édouard Glissant a été chassé de Martinique par le préfet de Martinique et il a dû vivre en France pendant des années. Il n'avait pas le droit de revenir en Martinique. Et chaque fois qu'on le chopait dans un aéroport, on le ramenait, manu militari. Donc c'est ça quand même le rapport au pouvoir central, le rapport à Paris, c'est ça.
D'accord. Et donc l'engagement
74,
qui est le vôtre.
Je milite au sein de l'Union des étudiants guyanais. Je vais entrer pour la première fois à la prison de la Santé parce que nous allons rendre visite aux prisonniers, donc ce sont des prisonniers politiques, qui sont arrêtés sur la base d'un soi-disant complot complètement fallacieux et même assez fantaisiste, ridicule, dérisoire. Il y a un collectif d'avocats, dont Maître Henri Leclerc, par exemple, un collectif d'avocats ici qui se constitue pour les défendre et les soutenir. Et nous, étudiants, nous organisons toute une série. Moi, à l'époque, j'ai un job, je me souviens, je donne l'intégralité de mon salaire mensuel. On fait des banderoles, on organise des meetings, on mobilise, on appelle au secours d'autres organisations militantes d'autres pays, la FEANF, tous ces gens-là. Donc on fait ça. C'est mon contact avec le militantisme indépendantiste qui ne va pas se démentir. Et puis, cette conviction profonde et indestructible chez moi que l'engagement repose essentiellement sur l'amour. Que s'il n'y a pas d'amour, l'engagement est sec. Il est inhumain et forcément il est brègne, il est stérile, il est infécond. Donc il faut que l'amour soit là. Et l'amour, il se dit, il se voit dans la relation avec l'autre, c'est-à-dire avec l'autre camarade militant, dans l'interrogation, est-ce que l'action qu'on va conduire, est-ce qu'elle est souhaitable, est-ce qu'elle se justifie, est-ce qu'on peut l'expliquer, est-ce qu'elle nous fera progresser, est-ce qu'au terme de cette action, on aura amélioré l'accès à l'éducation, au savoir, à la culture, qu'on aura donné plus de liberté. Moi, je m'impose de m'interroger à chaque fois sur ces actions-là. Donc, évidemment, au MOGUID, c'est quand même plus sérieux. C'est discipliné, les hommes dominent, les filles, normalement, ça tape à la machine. Je commence à introduire d'autres mœurs, évidemment. Je commence par contrarier celui qui deviendra mon époux, d'ailleurs, qui est le dirigeant charismatique du mouvement à ce moment-là.
Avec qui vous êtes resté 20 ans.
Oui, oui, et mes quatre enfants sont ses enfants. Voilà, et puis c'est quelqu'un pour qui aujourd'hui encore j'ai une très grande admiration, une intelligence absolument lumineuse, mais qui à l'époque, vraiment, donc nous avons des accrochages très très durs.
C'est possible de mélanger à ce point l'amour dont vous parlez, qu'on entend bien comme étant un ressort fantastique pour pouvoir militer, et puis cette nécessité de trouver des consensus, de trouver des stratégies. Au fond, je suppose qu'à l'époque, ça devait être très difficile pour votre tempérament.
J'ai mis des années à apprendre à accepter les compromis. Je le reconnais, je dois faire des efforts, c'est-à-dire que j'en appelle à ma raison. J'en appelle aussi à ma maturité en me disant ben oui, mais tu as compris une fois pour toutes et définitivement qu'il faut marcher ensemble, qu'il faut avancer ensemble. Tu as compris une fois pour toutes et définitivement que même si tu trouves la solution bancale, si elle nous permet d'avancer, il faut accepter que voilà et qu'on va la ranger au fur et à mesure, qu'on va la rafistoler, qu'on va l'améliorer, qu'on va la consolider. Donc je me parle à moi-même. Hein. Aujourd'hui encore, je suis obligée de me parler à moi-même et de me dire mais rappelle-toi, tu as quand même compris ça.
Est-ce qu'il y a une part d'orgueil, Christiane Taubira, dans cette posture-là ?
Sans doute. Sans doute. Mais l'orgueil, moi je crois qu'il y a des orgueils négatifs et des orgueils positifs. L'orgueil positif, c'est celui qui dit on ne courbe pas les chines, on ne baisse pas la tête, on n'abaisse pas les épaules, on marche droit. Et même si on est blessé de la tête aux pieds, même si on est tous sanguinolents, même si on a les flancs fendus, on marche, on avance. Ça, c'est l'orgueil positif. Et c'est un orgueil, oui, je crois que je cultive. Alors, je le cultive.
Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, et vous l'avez dit vous-même, vous retirez des lectures ou des films. On n'a pas parlé du cinéma. Vous parliez, je crois, de Sidney Lumet et de la manière dont je parle les 12 hommes en colère. Ça vous a beaucoup marqué parce qu'il semblerait qu'après, votre raisonnement binaire, automatique, a explosé. Vous êtes imaginé qu'on pouvait raisonner autrement après avoir vu 12 hommes en colère. C'est vrai ?
Oui, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai.
Tous ces jugements sommaires.
Je l'ai vu et je l'ai revu. Quand je l'ai revu, il m'a fait moins d'effet. Mais heureusement que je l'avais vu. Ça n'enlève pas son mérite. Hein. Mais heureusement que je l'ai vu. Je devais avoir 17-18 ans quand j'ai vu 12 hommes en colère. J'étais à Cayenne. Quand j'ai vu 12 hommes en colère, j'étais à Cayenne, ce qui est extraordinaire parce qu'en fait, voilà, il y avait assez peu de films qui arrivaient et très peu de films de très grande qualité. Mais oui, à cet âge-là, je fais connaissance avec la complexité, avec la nuance, avec le doute, avec le doute. Évidemment, à mon âge, on est sûr de soi, on a tout compris, les trentenaires sont des vieux déjà. On a tout compris du monde. Et quand en plus on a mon tempérament, j'ai un tempérament explosif, c'est incontestable. Je fais des efforts pour me tenir, mais
on ne peut pas. Le naturel revient au galop.
Heureusement d'ailleurs, parce que je ne vais pas l'étrangler, ce naturel-là. Mais a fortiori quand j'étais adolescente. Voilà, j'entre dans un autre univers quand même. Et du coup, effectivement, ce qui va s'enrichir, par exemple, avec les films de Costa Gavras, c'est ça, c'est s'interroger, douter, conserver la liberté de douter, y compris quand tout paraît si certain, quand tout paraît si certain. Et je pense que ça, c'est une nourriture quotidienne pour l'intelligence. Voilà, quand tout paraît si certain et si évident, on doit s'interroger. Et ça me fait penser à vous me direz que c'est un lien qui est quand même un peu distendu, à cette lettre de Zola que j'ai relue récemment, la lettre à la France de Zola. Dans ces temps affreux de troubles moraux que nous traversons, où la conscience publique semble s'obscurcir, c'est à toi que je m'adresse, France, à la nation, à la patrie. Voilà, ces temps affreux de troubles moraux, de troubles moraux. Nous sommes dans des temps affreux de troubles moraux où la conscience publique semble s'obscurcir. Voilà. Donc on a l'impression que le monde sombre sous des ténèbres. On a face à soi des certitudes absolues et assénées. Et il y a cette petite voix de l'intelligence qui dit « Non, je ne capitule pas. En tant qu'intelligence, je ne capitule pas. J'interroge. » Et je me demande si cette certitude absolue qu'on m'impose est si juste et si vrai que cela. Et du coup, c'est la petite voix de Faulkner, hein, cette petite voix de l'homme qui, même lorsque tout le chaos aura envahi le monde et que le dernier soleil se sera couché derrière le dernier soleil du levant, il restera encore cette petite voix, celle de l'homme indestructible. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas capituler.
Vous croyez à l'intelligence individuelle et vous célébrez ceux qui en ont, ce que vous venez de faire. Est-ce que vous croyez à l'intelligence collective ?
Oui, je crois profondément. Et dans l'action publique, je crois qu'elle est indispensable. C'est pour ça que j'ai organisé deux grands exercices d'intelligence collective pour deux réformes majeures. La réforme pénale, l'intelligence collective, ça a été l'audace de mettre en place une conférence de consensus, c'est-à-dire d'accepter le risque d'avoir à constater un dissensus. Donc d'accepter le risque d'être face à un échec, celui qui me dirait « tu as prétendu que sur un sujet de société, il faut arriver à faire les gens se parler, même lorsqu'ils ont des parcours différents, des expériences différentes, des engagements différents, des positionnements partisans politiques différents et même de confrontation. Tu prends le risque de les mettre ensemble, ça peut aboutir, ça peut clasher. Mmh. » Bon. Donc voilà, mais c'est un vrai pari sur l'intelligence collective. Je mets ensemble des intelligences individuelles pour construire une intelligence collective. Et ce pari a été un pari réussi. Ces personnes ont produit un projet, ont produit des solutions, des propositions ensemble. Je l'ai fait pour la réforme judiciaire en mobilisant les intelligences qu'il y a dans nos juridictions. Et tous ceux qui participent aux juridictions, c'est-à-dire les magistrats du ministère public et ceux du siège, les greffiers et les fonctionnaires, mais aussi les professions du droit, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les huissiers, toutes ces personnes-là, les faire travailler ensemble, réfléchir ensemble sur des sujets au même moment et dans les mêmes lieux. Voilà. Et là aussi, ça a donné de beaux résultats. Donc oui, je crois à l'intelligence collective, non pas seulement théoriquement, mais pour l'avoir pratiqué, pour l'avoir vu à l'œuvre.
À quel moment, Christiane Taubira, avez-vous eu le sentiment que le verbe, que la langue, était une arme ?
Grâce à Aimé Césaire, les armes miraculeuses. Les armes miraculeuses, c'est un recueil de poèmes magnifique, il y en a de très 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 beaux. Je dirais, grâce à Aimé Césaire, j'ai compris conceptuellement que le verbe est une arme miraculeuse. Mais je ne l'ai pas compris pratiquement. Je l'ai compris pratiquement il y a très peu de temps, en fait, à force d'entendre des commentateurs parce que, bon, voilà, c'est des journalistes, mais pas seulement des journalistes, des personnes qui s'expriment, enfin bon, des personnes...
Des experts.
Voilà, oui. Oh non, j'espère, non. Ils ne m'émeuvent pas, les experts à leur place. Donc, avec tout le respect qu'on leur doit, parce qu'ils ont une vraie maîtrise de leur sujet, ils ont une vraie technicité, donc une vraie utilité pour éclairer l'action et la décision politique, mais il faut qu'ils restent dans leur territoire d'expertise. Bon.
Donc, le verbe.
Les personnes, oui, sur le verbe, les personnes qui commentent ont attiré mon attention à la longue, pas depuis que je suis garde des Sceaux, hein, depuis avant, quand j'étais députée, j'ai beaucoup entendu parler, de commenter des interventions que j'ai faites à l'Assemblée nationale ou des propos tenus dans un média en disant que ça a fait basculer, que ça a fait changer de position, que ça a fait... Donc j'en ai pris un peu conscience pratiquement, mais j'en avais pris conscience conceptuellement grâce à Aimé Césaire, parce que la façon dont Aimé Césaire explique que ceux qui n'ont rien, ceux qui sont dépouillés de tout, peuvent néanmoins s'emparer du monde et le faire fructifier par le verbe, par leurs paroles, par la poésie en particulier. La poésie qui en soi est subversion. La poésie, c'est ce qui nous permet de survivre dans un monde de domination, d'injustice, d'inégalité. La poésie, c'est ce qui nourrit notre énergie, notre combativité, notre capacité à ne pas nous résigner, à ne pas nous installer dans une fatalité. Donc ces armes miraculeuses, j'en ai pris conscience parce que les œuvres de Césaire, mais les autres aussi,
les œuvres de Senghor,
bien entendu, de Léon Gontran Damas, ces œuvres-là qui sont majestueuses, mais d'autres aussi, de Pablo Neruda, d'autres... ces œuvres poétiques, elles disent le monde, D'abord, elle donne à comprendre et à lire le monde. Dans tout ce que le monde dissimule, dans ses ruses, mais en même temps dans ses lignes de force. Un monde d'injustice où les puissants arrivent toujours en fait à prendre les choses en main. Cette poésie-là, elle le dit. Et une fois qu'elle l'a dit, elle nous a donné du carburant. Et c'est à nous qu'il revient de mettre tout ça en œuvre et en action. Donc le verbe, il crée, il transforme. Il est essentiel, mais il ne doit pas tourner sur lui-même. Et moi, je veille à ne pas avoir un verbe creux, même si j'aime les sonorités, j'aime la musique des mots. Mais je veille à ne pas avoir un verbe creux, pas des mots qui se suffisent à eux-mêmes, pas des phrases qui dansent toutes seules avec elles-mêmes, pas un vocabulaire qui en impose. Des mots pour dire l'essentiel, des mots pour parler à l'autre, des mots pour donner corps à des réalités, y compris celles qui se dissimulent.
Ce pouvoir du verbe, vous l'avez exercé tôt, à la radio, à la télévision, puis sur les estrades. Mais c'est à la radio que vous faites basculer les opinions, non ?
J'ai tenu une chronique sur l'agriculture et la pêche, qui effectivement a fait changer de façon spectaculaire l'opinion publique sur ces deux secteurs d'activité, ces deux filières d'activité.
Nous sommes dans les années 80-90 ?
Oui, c'est ça. Ça va de 85 effectivement à 92, toute cette histoire, donc par tranche. Donc cette chronique quotidienne sur la radio publique à l'époque en Guyane et un véritable engouement de la population pour ces deux filières d'activité que je resitue dans l'histoire de la Guyane, dans la réalité territoriale de la Guyane, l'espace maritime, ce que représentent ces métiers de la pêche, ce que ça peut représenter aussi comme capacité à nourrir une population, quels sont les enjeux derrière tout ça. Pareil pour l'agriculture. Et puis, je dirige une structure, effectivement, qui s'occupe de la pêche artisanale et qui l'a fait évoluer, la modernise, etc. On fait un travail colossal qui est attesté d'ailleurs par un rapport national. Hein. C'est une délégation qui est venue de France et qui a étudié ce qu'on a fait et qui a dit qu'en 3 ans, on a fait ce que les ports français en font en 20 ans.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Et puis, il se passe que j'entre en conflit. Là encore, surtout la même logique. Quel est le sens de ce qu'on fait ? Est-ce que ce qu'on fait a une légitimité collective ? Est-ce que c'est porteur de bienfaits ? Donc, dans cette même logique-là, j'entre en conflit avec le conseil d'administration, qui en a assez de moi, donc, et qui décide de m'abattre. Et qui convoque... Alors, on est en conflit sur des choses précises. Par exemple, il y a une inflation dans le prix des navires. Je trouve ça inadmissible, je trouve ça suspect. Je demande un audit, on me le refuse. Je menace de le commander moi-même, même si je n'en ai pas le droit. Je dis, je suis prête à assumer les conséquences d'une transgression du droit pour commander l'audit. Mais voilà, parce que je suis sûre que l'audit nous permettra de faire la lumière sur des pratiques qui manifestement sont contestables. Donc, il décide de m'abattre, il convoque un conseil d'administration et il le rend public. Donc, il l'ouvre très largement. C'est un conseil, normalement, ils sont 12 administrateurs, mais c'est un conseil qui va se tenir avec une centaine de personnes. Ils ont bien remonté toute une série de pêcheurs, y compris ceux qui ont bien profité du travail qu'a produit l'agence que je dirigeais. Et ils ont réussi à faire croire aussi bien à la région qu'au département et à la préfecture qu'ils ont raison. Et que je suis dangereuse pour le secteur et que, par conséquent, il faut vraiment m'éliminer. Et comme ils ont ficelé tout ça est bien verrouillé, ils ont organisé une exécution publique avec la radio, la télévision, etc. Et devant tout ce public d'une centaine de personnes qui n'ont rien à faire dans un conseil d'administration. Et donc, moi, je livre bataille, simplement, dans ce conseil d'administration. Je livre bataille et assez rapidement, c'est un conseil qui dure quand même 6 heures, assez rapidement, c'est-à-dire quand même au bout de 2 heures, 2 heures et demie, je prends la main, ça bascule, et c'est moi qui maîtrise les choses tout le reste du temps. Et comme tout ça s'est fait en public, puisque ça devait être une exécution publique, il y a un basculement extraordinaire. Et en fait, c'est sur la base de cet épisode que les gens, après, vont me demander d'aller aux élections, parce que je ne décide pas d'aller aux élections. C'est un mouvement populaire qui me demande d'aller aux élections législatives.
Qu'est-ce qu'on ressent précisément quand on voit basculer une opinion, quand les mots décident à la place?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce sont les mots qui décident à la place. On a conscience que la vérité a décidé. Les mots ne sont en fait que les véhicules, ce sont les trottinettes de la vérité, les mots. Donc, on a conscience que, waouh, quand même, le monde, il n'est pas perdu. Parce que parfois, la vérité, elle gagne, quoi. C'est ce qu'on ressent. Et on le ressent physiquement, quoi. Physiquement, je ne suis pas grande, hein, mais mon corps déborde. Hein. Il y a une espèce de volcan à l'intérieur de moi. Et je sens bien, je ressens bien que ça, c'est une victoire énorme. Alors, après, on se rend compte que heureusement qu'on a trouvé les mots qu'il fallait, heureusement qu'on a argumenté, heureusement qu'on a construit le raisonnement, heureusement qu'on a été capable, avec les mots les plus justes et les plus précis possibles, d'installer dans l'esprit de ceux qui nous écoutent la pensée qu'on voulait transmettre. Donc après, on se rend compte effectivement du rôle des mots, mais sur le moment, c'est le corps de la chose, c'est-à-dire la vérité elle-même qui s'impose. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais perdu, parce que évidemment, à cette époque-là, je ne fais pas de la politique, même si des gens n'ont pas cessé de me dire: mais pendant toute votre vie professionnelle, vous avez fait de la politique. Vos choix dans l'agriculture, vos choix dans la pêche. Dans l'agriculture, nous avons fondé une fédération de coopératives agricoles. Vos choix dans la pêche, la modernisation de la pêche artisanale, le fait de lui permettre d'accéder à un métier plus élaboré, etc. Les gens après m'ont dit: mais vous avez fait de la politique quand vous étiez dans vos engagements professionnels. Mais du coup, peut-être que c'est de là que je tiens.
Que... Surtout que se suscitait, je suppose, ce magistère du verbe, des mots. Beaucoup de jalousie.
J'ai entendu des choses très désagréables et très violentes, alors que moi, je n'avais pas pris
conscience
de
cela.
La puissance du verbe. J'ai entendu des choses très désagréables. Bon, oui, bon, mais j'ai entendu tellement de choses désagréables sur tellement d'autres choses.
Que vous avez déjà oublié.
Non, je n'ai pas oublié, je les ai encore à l'oreille. Simplement, voilà, je les crois insignifiantes. Je les crois insignifiantes et juste, voilà, donc gratuites. Juste inutilement méfiantes.
Les hommes ne supportaient pas que vous puissiez prendre la parole et les prendre de haut.
Et ça, en Guyane en particulier. Bon, en France aussi, malheureusement, j'ai dû m'en rendre compte. Mais en Guyane en particulier, parce qu'en plus, on est des sociétés où le pouvoir politique est tellement écrasant et invisible. En tout cas, avant les lois de décentralisation. Quand il y a eu les lois de décentralisation, il y a eu un peu un partage de pouvoir. Donc, on a eu l'impression que des décisions se prenaient sur place. Mais sinon, les décisions se prenaient ailleurs. Donc, il y a des générations d'hommes qui ont vécu sans autorité. Et la seule autorité était celle qu'ils imposaient forcément aux femmes et aux enfants. Parce qu'ils n'avaient pas d'autorité, ils n'exerçaient pas justement de magistère dans la société. Il n'y avait pas d'autorité. D'où aussi un peu le lustre et l'artificialité de certains corps constitués, de certains clubs chics, très sélectifs socialement. Voilà, ce lustre, parce qu'il y a une illusion de pouvoir là. Mais le pouvoir politique, il est ailleurs. Il est ailleurs parce que dans ces territoires éloignés, le pouvoir politique, il n'est pas territorialisé, il n'est pas localisé, il n'est pas physiquement là, donc il n'est pas visible, il n'est pas accessible. Donc du coup, c'est vrai que les hommes sont obligés d'hypertrophier leur autorité, leur pouvoir, leur puissance. Ils hypertrophient, ben, pas sur les plantes de leur jardin, forcément, sur les femmes et sur les enfants. Et d'une façon générale, dans la société, j'étais la première femme élue députée en Guyane. Et c'était inconcevable, alors que ce sont les femmes qui font les carrières des hommes, les carrières politiques des hommes. Ce sont elles qui sont dans les organisations politiques, ce sont elles qui militent, ce sont elles qui organisent toutes les choses, mais elles le font pour les hommes. Donc qu'une femme s'autorise à être candidate elle-même, c'était absolument inconcevable. Donc je transgressais trop de choses. En plus, je ne viens pas en disant que je remercie tous les hommes de me faire confiance. Je ne viens pas comme ça, je ne viens pas gentiment, je ne viens pas en faisant valoir mon élégance et ma beauté. Ce serait difficile, je n'ai ni élégance ni beauté. Bon voilà, donc je ne viens pas comme ça, je viens, je casse, je bouscule, j'exige, j'impose, bon voilà, je dérange, et je sais que je dérange, et j'assume de déranger. Bon voilà, ça mérite des claques, donc voilà, j'ai eu plus que ma part de claques.
Dans l'évolution de votre histoire politique, Christiane Taubira, il y a eu un tournant, l'élection de François Mitterrand en 1981. Vous rompez avec le militantisme indépendantiste, mais vous refusez régulièrement de vous présenter aux élections.
Quand je dis que je ne voulais pas, c'est au sens de la volonté, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choix de vie, sincèrement. Ce ne sont pas des choix de vie. Alors, ce ne sont pas des choix de vie personnelle, c'était des choix de vie collective. Parce qu'à un moment, je dis oui. Voilà, j'y vais pas.
Après avoir dit non, on est d'accord.
Après avoir dit non, par exemple, en 92, quand les gens commencent des pétitions, des émissions de radio, des délégations à mon bureau, à l'époque, je suis directeur général de l'Office de coopération du commerce extérieur. Les gens me demandent des audiences, ils viennent me voir en délégation dans mon bureau. À cette époque-là, je dis clairement non. Et ça dure 4 mois où je m'énerve, je me fâche et tout ça. Donc non, il y a un moment où je dis oui, je sais, c'est un acte posé, positif, posé, lucide, conscient. Pas simple à faire, parce que c'est le philosophe Alain qui disait que penser, c'est dire non. Je dis assez volontiers non. D'abord, je dis spontanément non. Je me prends le temps de la réflexion et si nécessaire, je dis oui. Mais souvent, hein, dans la vie, hein, y compris dans la vie quotidienne, je dis d'abord non. Oh, là, on se pose, on réfléchit. Et puis, s'il faut, on dit oui. Bon.
Et donc, vous procédez donc, de la même manière.
Voilà, c'est pas de la volonté au sens où... Au sens où, en plus, au moment où tout cela survient, j'ai des projets personnels en cours. Donc, quand je dis oui, je renonce à des projets personnels. Par exemple, fin 92, début 93, quand j'accepte d'aller aux élections législatives, je renonce à un projet personnel qui était en plus un projet familial. J'avais décidé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mené des batailles.
Canada.
Voilà, je partais. J'avais déjà signé avec l'Université de Montréal. Voilà. Donc, et je renonce à cela. Ma famille était préparée à ça, mes 4 enfants, mon époux, voilà, t'es préparée à ça.
Alors quand vous dites oui, vous consultez les enfants, vous consultez votre mari ou ex-mari, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous changez d'avis ?
Mais je réalise 2 choses. La première, c'est que les personnes qui me demandent représentent la totalité du corps social. Il y a des personnes, il y a des dockers, il y a des ouvriers, il y a des petits patrons, il y a des femmes, il y a des fonctionnaires, il y a... Voilà, il y a toutes les classes sociales. Donc ça me fait un choc quand même. Je réalise que ça n'est pas une demande fantaisie, ça n'est pas une demande d'un groupe, ça n'est pas un parti politique qui me demande. C'est le corps social, en tout cas des personnes qui ont une expérience et un vécu social différent qui, ensemble, me demandent la même chose. La deuxième chose que je constate, c'est que, en fait, il y a une espèce de dépression collective. Parce que c'est la période où il y a toute une série d'articles qui disent que la classe politique guyanaise est corrompue, que la Guyane n'aboutira à rien. Il y a un sentiment d'indignité collective. Il y a un sentiment, les gens se sentent salis, souillés, et ils ont besoin qu'on leur redonne de l'aura. Ils ont besoin qu'on leur redonne de l'aura. Donc la demande des gens est en plus extraordinairement raisonnable. Ils me demandent d'aller aux élections, mais absolument persuadés que je ne peux pas gagner.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Christiane Taubira. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Clément Daté. Réalisation, Charles Trou. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant 1 an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Christiane Taubira.